Allez, on passe à la question macro. L'économie mondiale peut-elle rebondir et comment à l'issue du conflit? C'est une question pour vous, de nos spectateurs, Wilfried Gallin.
Alors, elle va rebondir, oui.
Aussi. Comment?
Mais la question, c'est jusqu'à quel niveau? Ouais. Et je pense qu'on va avoir un peu comme après le Covid, on a eu à un moment donné une rupture de tendance. Je pense qu'on va avoir cette rupture de tendance parce que globalement, les coûts généraux de l'économie mondiale ont monté. On n'est pas dans un cycle inflationniste, mais on est dans une montée des coûts de l'économie mondiale. Et ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ce que j'appelle la société de la défiance, qui se généralise, défiance entre les pays, entre les zones géographiques, voire même entre les individus.
Mais qu'on voit pas tellement, quoi. Quand on regarde les chiffres du commerce international, évidemment avant la guerre en Iran, et même avec les droits de douane, on n'a pas vu ce cloisonnement, ce que tout le monde raconte, que le découplage.
Ce qu'on voit, c'est que
il y a une redéfinition des échanges par zone, mais c'est pas très grave ça.
Alors c'est pas très grave, mais le commerce mondial croît moins par rapport à la croissance mondiale que ce qu'il était.
Voilà,
on a un découplage.
D'accord.
Et surtout, en fait, on a globalement de la part des entreprises, on est passé à un stade où tout le monde veut être le plus indépendant
possible. Bien sûr, autonome.
Or quand vous devez être indépendant, en fait, vous rajoutez des couches supplémentaires à votre...
Et puis, vos coûts d'approvisionnement sont plus élevés.
Voilà, les coûts d'approvisionnement sont plus élevés. Et donc, tout devient plus... Le niveau de friction de l'économie mondiale est en train de monter. Donc, ce n'est pas pour ça qu'il y a moins d'échanges. Mais en fait, les frictions de ces échanges, par exemple, en termes de normes, sont en train de monter. Et ça, effectivement, il y a un coût pour l'économie mondiale et ce coût, il va être probablement important.
Léa, vous confirmez que la croissance du commerce mondial est inférieure à la croissance économique ou il essaye de m'enfumer?
Non, il n'en fume pas.
Il joue son économiste.
Non, on est d'accord. Non, c'est cette logique de fragmentation, en fait. C'est une bifurcation des échanges.
Il n'a pas menti, donc?
Non. Dans lequel il va y avoir plus de commerce sud-sud. Et en fait, à qui ça va pénaliser? En fait, c'est les États-Unis et l'Europe en premier lieu. Et c'est un monde pas nécessairement avec une spirale inflationniste, mais avec une marge d'escalier vers une inflation plus élevée. Potentiellement une croissance potentielle plus élevée, donc des taux d'intérêt plus élevés. C'est ça, en fait, ce monde-là.
Et nous, en Europe, on va s'en sortir, là?
Quel horizon?
Après la guerre.
C'est conjoncturel ou c'est structurel?
Après la guerre.
Alors déjà, après la guerre,
disons que dans quelques semaines, c'est terminé. Allez.
Disons que dans quelques semaines, c'est terminé. La prime d'inflation, elle se réduit. La hausse de taux BCE qui peut être envisagée recule. On a des fonds. Alors effectivement, l'Allemagne est moins le moteur que ce qu'on espérait, mais les plans de défense sont là. On a tout le restant des plans des NGU qui arrivent et qui est là. Les questions stratégiques et d'indépendance, donc oui, mais avec effectivement un coût du capital plus élevé, une inflation structurellement plus élevée.
Bon, et avec ce que vous adorez, les économistes, c'est la croissance potentielle qui est quand même pas terrible, c'est-à-dire.
On a un bon niveau de croissance quand même. On a quasiment un niveau de croissance observé qui est proche de la croissance potentielle.
Oui, mais justement, la croissance potentielle n'est pas fabuleuse.
En Europe, non.
Non.
Mais ça, c'est rien de nouveau.
C'est rien de nouveau. Éric Blaine, rien de nouveau.
Ce que j'entends, moi aussi, c'est quand même que la partie immobilière ne marche pas. Alors, ça marche pas en Chine. Aux États-Unis, ça ralentit. Et en Europe, ce que je peux entendre des promoteurs immobiliers, des architectes, c'est que les taux d'intérêt sont trop élevés, les coûts de fabrication sont élevés, les consommateurs, les acheteurs ne peuvent pas vraiment aujourd'hui se montrer très dynamiques et à l'achat. Et je trouve que lorsque la construction de l'immobilier fonctionne
pas... Quand le bâtiment va pas, rien ne va.
Et ouais. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Donc, il faut que les taux baissent, en fait. Et le sujet, c'est que, avec les endettements des États, c'est pas la voie qui est prise. Et ça, c'est vraiment un sujet, je trouve.
Vous êtes d'accord avec ça, Wilfried? Pardon, Céline.
Je suis d'accord.
Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec l'idée que le secteur immobilier, c'est quand même un poids sur la croissance mondiale ou la croissance de certaines zones ou pas?
En tout cas, c'est un moteur qui manque.
C'est un moteur qui manque. Céline, pardon.
Non, c'était juste pour rebondir sur, effectivement...
Rebondissez.
Le poids des taux qui pèse sur les économies développées. Mais pour revenir sur la thématique chinoise de tout à l'heure, si on regarde les chiffres, il y a un endroit où, pour le coup... l'environnement immobilier s'améliore d'un point bas, on est d'accord, tout à fait. Hein. C'est la Chine. Voilà. Parce qu'effectivement, eux, ils ont nettoyé leur stock. Ça fait 6 ans qu'ils sont en crise.
On est sûr qu'ils ont nettoyé leur stock?
Là, on est à des niveaux extrêmement bas, oui. Et là, on a une reprise, si vous regardez les villes comme Shanghai, enfin des grosses villes en Chine, on a une reprise
des prix.
Des prix.
Ah oui. Donc, vous l'avez observé, ça, Léa?
Tout à fait.
Vous aussi, Wilfried,
donc, après 6 ans,
pas oui si vous voulez.
Non, mais t'as d'acheter de l'immobilier en Chine.
Vous savez
pas. Non, mais on a donc, après 6 ans de destruction de valeur, c'est normal d'avoir un petit rebond. Quoi. C'est...
Oui. Il faut voir aussi les signaux positifs quand ils existent. Bon,
voilà. Donc là, vous êtes plutôt positif, c'est ça, sur
donc,
la Chine. Vous nous dites quoi?
Juste pour revenir sur le débat sur la Chine, qui avait quand même quelques petits signaux domestiques qui étaient moins mauvais que par le passé, et que par ailleurs, la problématique de la Chine, c'était la déflation. Et comme le disait Wilfried à l'instant, quand on a de l'inflation qui est un petit peu plus forte, eux, ils en profitent.
Vous citez Wilfried.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Vous citez Wilfried dans le texte.
Honneur.
Bon, est-ce qu'on peut avoir le sourire pour 2027?
Il faut.
Non, mais au-delà de ça, au-delà du wishful thinking, est-ce qu'on a quand même des signaux en se disant qu'à un moment, d'une façon ou d'une autre, cette guerre va s'arrêter? Est-ce qu'on a des signaux d'espoir pour la croissance pour 2027?
Pour moi, le signal d'espoir, c'est la productivité qui monte. Et aux États-Unis, elle monte. Et une nouvelle fois, j'insiste là-dessus.
Ah, Céline, elle dit qu'on peut pas la mesurer.
Non. On ne peut pas mesurer l'impact de l'IA. Elle monte depuis 2021.
Okay.
2021
aux États-Unis.
Aux États-Unis. Donc 2021, il n'y avait pas encore les modèles qui s'étaient développés, hein, puisque la présentation, c'était 2022. Et donc, en fait, là, effectivement, il y a une incertitude sur ce que va donner l'IA. Mais en revanche, la productivité, ça nous permet effectivement d'avoir le sourire pour 2027.